Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 15h15 exactement, on est en direct pour cette première journée du MIPIM. Nous sommes le 12 mars 2024, c'est la 34e édition ou 35e édition. Si on compte celle du Covid hein, aussi, qu'il faut compter. Donc c'est the place to be, c'est là où se rencontre le monde immobilier, la planète immobilière. Pratiquement 105 pays sont représentés, ce qui est énorme. Et on attend environ 21, 22 000 personnes avec justement le souci de l'immobilier, toute classe d'actifs confondus. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une porosité. Une silotation finalement des classes d'actifs, hein, on parle autant de bureaux que de logements, d'hospitalité, de tout ce qui touche aujourd'hui à l'industrie de la ville. Je le rencontre régulièrement, c'est toujours un plaisir. Ça fait déjà quelques années où on se donne rendez-vous, notamment au MIPIM, pour parler métier. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau François Troche.
Bonjour Sylvain.
Le CEO de PIMCO. Voilà. Anciennement Allianz Real Estate, mais PIMCO, on va en parler tout à l'heure. Avec vous, François, on fait aussi la revue de détail, toujours accompagné de Grégoire Daricot. Comment ça va, Grégoire ?
Toujours très bien, Sylvain.
Alors, si on devait aujourd'hui... un petit rappel d'ailleurs, PIMCO, l'histoire...
PIMCO, c'est le plus grand manager obligataire au monde qui a repris l'activité de gestion de l'immobilier de Allianz. Fait partie du groupe également. Et la proximité avec le monde obligataire nous rend plus humbles quels sont les retours attendus de nos jours par les investisseurs.
Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Parce que justement, on parlait tout à l'heure avec vous, François, de l'état du marché. Alors moi, je vais vous faire un... Alors, on ne va pas faire de la méthode Coué, mais on va se dire que finalement, tout bouleversement est propice au changement. Et on voit bien que l'industrie immobilière est un peu taquinée, chahutée, depuis maintenant pratiquement 2 ans. Plus de 400 points de base d'augmentation sur les taux d'intérêt, une inflation galopante, un gel complet, effectivement, sinon à l'arrêt de la production de logements neufs, par exemple. Mais pas que ça, aussi une désaffection de l'offre qui est attendue de façon assez large. Sur toute classe d'actifs confondus, certaines s'en sortent plutôt bien, mais quand même, notamment sur le logement où il y a un vrai sujet dans notre pays. C'est le sujet également en Allemagne, on a un vrai sujet autour du logement. D'ailleurs, on n'est pas loin de nos amis berlinois et de Stuttgart pour en parler. Si on devait aujourd'hui faire un petit peu un bilan de marché à date, est-ce qu'on n'a pas l'impression, François Troche, qu'on est dans un état de polycrise ou permacrise où une autre crise chasse l'autre?
Moi, je pense pas. Sylvain, vous regardez des séries, non ?
Oui.
Voilà. Donc, en fait, il faut penser en termes de séries, et je pense qu'on comprendra le marché peut-être un peu différemment. On a terminé l'année dernière la saison 1, d'accord ? La saison 1 a commencé en 2022 avec une dystopie. Les taux pouvaient monter, on avait oublié.
C'est d'accord ? Vrai. C'est vrai.
Elle a commencé fort quand même, la saison 1.
Très fort. Et puis, lorsque les taux ont monté durant la saison 1, on s'est dit, bon, l'écart entre les taux de capi et les taux d'intérêt reste encore historiquement haut, mais les taux ont continué à monter. Puis on s'est dit, bon, ce qu'on perd sur les taux, on va le rattraper en croissance de loyer. En fait, ce n'était pas le cas. Bref, cette saison 1, elle s'est terminée avec les taux un record au-dessus de 5%. Ce que la saison 1 nous a dit, c'est que les produits de dette sont importants. Ils comptent, d'accord ? Et que finalement, tout un tas d'investisseurs qui achetaient la pierre maintenant se sont mis sur la dette privée, notamment immobilière. Donc il y a eu un retournement, je dirais, d'une classe d'actifs qui avait été un peu oubliée lorsque les taux étaient très, très bas. Donc c'est un peu une dystopie la saison. La saison 2, elle a commencé sur une très bonne note en fin d'année. C'est les banques centrales qui ont indiqué que la hausse des taux était terminée et qu'ils allaient maintenant entamer une baisse. Alors le marché y a pris ses souhaits pour des réalités. Les taux ont baissé, ils sont un peu stabilisés. Et donc je pense que ce qui est intéressant actuellement dans cette deuxième saison, dont je n'ai pas encore vu la fin, donc je suis au milieu de cette saison, c'est de se dire que dans l'esprit des gens, le taux de rendement nécessaire commence à se cristalliser. Hein. C'est-à-dire que le vendeur sait que ce ne sera plus les 2% qu'il avait avant. L'acheteur sait que ce ne sera pas forcément 5%. Donc on sait que maintenant, ça sera entre les deux. Et donc, acheteurs et vendeurs qui n'ont rien fait pendant 18 mois recommencent à se parler. Et donc, on peut espérer que le différentiel entre l'offre et la demande va se résorber. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les taux semblent rester quand même à un niveau relativement élevé. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Anglais appellent ça « mind the gap hein. ». Quand vous sortez du métro, c'est l'écart entre la plateforme et la rame. Hein. Et on peut facilement tomber dedans. Et cet écart, bah, c'est simplement mécaniquement pour tous les refinancements qui vont avoir lieu en 2024, 2025, 2026. Et on parle d'à peu près 600 milliards de refinancements dans les marchés américains et européens, où mécaniquement, il va y avoir 15% qu'il va falloir combler. Alors, comment ça va se faire? Parce que mécaniquement, avec les taux plus élevés, quand quelqu'un a un refinancement d'un prêt qu'il aura fait avant, bah, il lui manquera 15%. Et donc, ou bien la banque lâchera du lest, ou bien l'emprunteur va devoir mettre des capitaux, ou alors la banque vendra son prêt avec une perte, ou bien le détenteur de l'actif va devoir le vendre avec une perte. Donc, je pense qu'on va entrer dans une période extrêmement intéressante où ceux qui ont des capitaux un peu agiles pour proposer des solutions vont avoir, à mon avis, des très bons retours. Hein. Donc, la saison 2, c'est ce que nous, on appelle un peu le capital hybride.
Est-ce qu'on pourrait dire la prime est à la liquidité?
La prime est à la liquidité, exactement. Et la liquidité
et
de
la
celui... Et oui, la liquidité de celui qui pourra résoudre une situation.
Mais oui.
Voilà.
Parce qu'en fait, si demain matin, on a des personnes qui ont du cash, dans un marché tendu, où ça se vend moins... où on est clairement dans un marché d'acquéreurs et plus un marché de vendeurs, c'est clair que la prime est à la liquidité.
Exactement. Et donc, et à celui qui pouvoir résoudre une solution. Parce que, naturellement, celui qui a l'actif voudra peut-être le garder un peu plus longtemps.
Bien sûr.
Donc, je pense qu'on entre dans une période très intéressante où saison 1, c'était la dette. Saison 2, ça va être entre la dette et les investissements. Quelque chose d'hybride où la liquidité sera très, très bien payée.
Sans dévoiler le scénario de la saison 3, ça serait quoi, alors, du coup?
Ben d'abord, il faut que la saison 2 se termine bien ou qu'il y ait des financements pour la saison 3. Hein. Je pense que la saison 3, il faut espérer que... la saison 3.
Est-ce qu'on va reconnaître l'époque qu'on a connue ou pas, François?
Je pense que... Non. Pas en taille.
L'époque qu'on a connue, open bar, c'est terminé.
Open bar, c'est terminé. Là, les trois lettres magiques, ce seront la digitalisation, la démographie et la décarbonisation. Donc, tout tes investissements...
Décarbonation.
Décarbonation, exactement, la décarbonation. Donc, les 3D vont, orienter les investissements futurs. Et aujourd'hui, si on peut packager son immobilier un peu sous l'étiquette infrastructure, on a encore plus de chances de trouver...
Alors, justement, reprenons ces 3D, c'est intéressant.
Oui.
J'aimerais qu'on développe. Quand vous dites, François, digitalisation, qu'est-ce que vous sous-entendez? Parce qu'on est déjà pas mal digitalisé, là.
Mmh. Oui.
Qu'est-ce qui va encore...
C'est vrai que l'immobilier, il vient progressivement sur la digitalisation.
Oui.
C'est l'IA, c'est quoi?
Alors oui, la classe d'actifs la plus, la plus directement liée, c'est les centres de données, les data centers. Ça, c'est... La corrélation est immédiate, je dirais. La logistique est une forme de digitalisation à travers l'e-commerce et tout ce qui est touché avec. Donc tout ce qui peut bénéficier de cet aspect là, je dirais la logistique, les centres de données,
le bureau un peu.
Alors peut-être le bureau sur la décarbonisation. La décarbonation du bureau peut-être, mais le bureau aujourd'hui c'est encore trop tôt. Hein. Ça, pas que c'est la saison 4, il faut espérer que ça arrivera avant. Mais peut-être à la fin de saison 3, le bureau refera son apparition. Mais entre-temps, il y a d'autres classes d'actifs qui vont l'emporter.
Et donc vous êtes d'accord qu'on ne reconnaîtra pas ces périodes exceptionnelles qu'on a connues les 10 dernières années?
Moi, je pense que ce sera beaucoup plus spécialisé et focalisé, les investissements. Autant la dette, on peut être assez large. Toute forme de dette marche dans le marché actuellement. Autant pour les investissements, il faudra que ça soit aligné très fort à un des 3D pour avoir une traction auprès des investisseurs.
Question. Est-ce que le bon asset, finalement, le bon développeur sera celui qui sera très opportuniste en classe d'actifs? Ou est-ce que le fait d'être monoactif, aujourd'hui, c'est fini, c'était...
Non, je m'occupe aussi du jury du MIPIM. Hein. Je suis président du jury cette année, ma dernière année, et on voit quand même que les projets de conversion de bureau en bureau avec d'autres usages, en multi-usages, c'est ce qui marche le mieux. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut transformer un bureau en logement, ça ce serait bien, mais c'est encore mieux si on peut transformer le bureau en bureau et logement et hôtel et commerce et d'amener tous ces différents usages
à l'intérieur,
une mixité dans le même immeuble. On voit que c'est quand même ça. Donc le bureau a un avenir, mais accompagné, je dirais, d'autres classes d'actifs.
Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait encore les années précédentes, c'est vraiment nouveau, c'est récent.
Non, mais en fait, on essaye de faire feu de tout bois. On sait qu'aujourd'hui, si on veut transformer un immeuble du bureau dans un immeuble du bureau, bah, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de demande. Voilà. On veut transformer du bureau dans du logement. Ça peut marcher dans certains cas, mais ce n'est pas facile.
Ça coûte très cher.
Et ça coûte cher. Donc, il faut trouver d'autres usages. Parce que le bureau seul, je pense qu'on a trop de bureaux. Hein. Alors, aux États-Unis,
il y a un taux de vacances, de toute façon, sur le bureau qui est quand même en hausse. Et qui est,
Vous pensez, vous aussi, notre ami Astrid Veil disait la même chose, on a surproduit du bureau.
Ah oui, alors la caricature de la surproduction de bureaux, c'est les États-Unis, hein, qui ont deux fois plus de bureaux que nous. La même façon qu'ils avaient trop de commerce, et la crise a mis 7 ans à se résorber aux États-Unis, le bureau a passé, comme le commerce, par une phase assez lourde de restructuration, très forte aux États-Unis, une version plus soft en Europe, puisque en fait notre offre a été quand même moindre par rapport aux États-Unis. Donc effectivement, je pense qu'on est parti pour quand même quelques années de restructuration, dans le bureau. Oui.
On a parlé tout à l'heure digitalisation, on a bien compris. Vous avez parlé de démographie. À quoi vous faites allusion quand vous parlez démographie ?
Tout ce qui touche, à des classes d'actifs qui bénéficient de la démographie. Donc le logement,
bien sûr,
dans les villes, les résidences étudiantes, dont le ratio est encore très faible en Europe continentale par rapport à l'Angleterre. Les résidents gérés, tout ce qui... l'urbanisation, elle a encore lieu. Hein, dans beaucoup de villes à travers le monde, l'urbanisation a lieu. Donc je pense que la démographie est un bon indicateur d'une santé possible de l'immobilier sous-jacent. Donc, voilà.
Alors vous évoquez aussi un sujet qui est fondamental et qui d'ailleurs est en train de quelque part de aussi stigmatiser les acteurs de la filière dans le processus de décarbonation avec clairement une feuille de route. Alors les Allemands sont très forts là-dessus puisque ils l'ont aussi parfaitement intégré avec les paradoxes que l'on connaît, c'est celui de la trajectoire zéro carbone, donc neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous, votre point de vue, vous êtes un grand patron de l'immobilier, vous connaissez très très bien le métier, vous pensez que c'est atteignable une neutralité carbone en 2050 ?
En tout cas, je sais ce qui
dans les immeubles.
Ce qui est atteignable, c'est de suivre la méthodologie CREM qu'on utilise, CREM, qui est adoptée par la plupart des investisseurs européens, notamment Allianz sur la totalité de ce portefeuille. Et ce que CREM fait, c'est en fait une feuille de route, en fait une ligne descendante, et on doit rester à chaque moment, chaque année, sous cette ligne. Et la ligne, ce qui est intéressant avec la méthodologie CREM, c'est qu'elle s'adapte au réseau. C'est-à-dire que prenez le réseau allemand, il est très carbonisé, je dirais. Est-ce que si je dis le bon terme,
il est carboné.
Il n'est pas décarboné, justement.
Il est beaucoup de carbone.
Donc, du coup, la courbe CREM, elle est très pentue. En France, qui a le nucléaire, la courbe CREM est moins pentue. Hein. Donc aujourd'hui, j'achète un actif en Allemagne, il faut que je fasse beaucoup d'efforts et beaucoup de capex pour qu'elle reste sous la ligne. En France, je peux en faire un peu moins.
Comment vous expliquez que l'Allemagne, paradoxalement, soit aussi carbonée par rapport à l'industrie française ?
Non, c'est juste le nucléaire. Voilà, ils sont sortis du nucléaire et nous, on ne l'est pas. C'est uniquement ça.
Donc, le fait qu'on soit dans le nucléaire nous a quelque part...
Quand vous regardez les sites qui vous montrent quel est le taux de carbone par pays, les deux pays qui ressortent, mais qui, de loin, c'est la France et l'Espagne. La France à cause du nucléaire, l'Espagne à cause de l'énergie solaire, d'accord ? Et c'est un ratio de 1 à 10 par rapport à la Pologne. Hein. Montrer que la Pologne, c'est entièrement le charbon, encore. Hein. Ouais. Donc vous voyez l'écart énorme.
Mais en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont encore du mal à faire cette mue, finalement vers une énergie décarbonée ?
Non, ils le font parce qu'ils ont fait quand même...
Le choix de le faire, mais elle est longue. Quoi.
Elle est longue. Aller dans les énergies renouvelables, ça met du temps, sauf à avoir du solaire. Le solaire, ça marche.
Oui. En Allemagne, ça marche un peu moins.
Il y a du vent, mais encore, le vent, il est où ? Il est en haut.
Oui, c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont dû réouvrir toutes leurs usines à charbon. Exactement. Et du coup, fatalement, ça a impacté...
C'est vrai que...
Donc, pour répondre à votre question, on est sur une bonne trajectoire si on suit cette méthodologie. Après, pour arriver au net zéro, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Je sais pas
Est-ce que, objectivement, vous, d'un point de vue économique, vous pensez qu'on peut atteindre cette neutralité carbone ou vous vous dites, on s'est fixé un cap et finalement, quand on sera devant le guet, on traversera la rivière ?
Mais en fait, le guet, il est là chaque année, en réalité, parce que Allianz, parmi d'autres, fait partie de ce qu'on appelle les Asset Owner Alliance, avec d'autres institutionnels européens. Eux, ils se sont mis comme objectif intermédiaire, moins 25% par rapport à 2019, en termes absolus, mesuré en décembre 2024. D'accord ? Donc, en décembre 2024, il faudra que notre portefeuille, même s'il y a eu une croissance entre-temps, soit 25% en dessous de son niveau carbone de 2019. Donc, je pense que la façon d'y réfléchir, c'est pas de réfléchir à ce que je serai net zéro en 2050, c'est de se fixer des objectifs intermédiaires et de s'y tenir. Je pense que c'est ça. Et avec un peu de chance, quand on s'approchera du net zéro, ben on aura peut-être des nouvelles technologies qui vont nous aider à faire le petit pas pour que notre immeuble ait le surplus d'énergie produit sur place pour y arriver. Autrement, effectivement, on n'y arrivera pas, sauf à fermer l'électricité
et le chauffage. Vous savez ce que vous devriez faire, François ? Vous devriez faire de la politique. Non, c'est vrai, vous êtes jubilatoire. Vous êtes hyper rassurant. Non, mais vous nous faites comprendre quelque chose, qu'il y a des crises, où il y a vraiment une grosse tension, et vous le faites de façon tout à fait naturelle.
Alors, je ne dis pas que ce sera facile, parce qu'évidemment, faire des CAPEX aujourd'hui, c'est plus difficile. Lorsque les taux de CAPI étaient à 3%, tous les CAPEX étaient relutifs sur les rendements. Aujourd'hui, falloir travailler plus pour y arriver. Hein, je pense que c'est...
Et chez Pinko, le business, ça se passe comment en ce moment ? Est-ce que ça sent plutôt bon ?
Le gros du business de Pimco, c'est l'obligataire.
Oui.
Donc, naturellement, ce sera l'année de l'obligataire 2024. Puisque les taux commencent à plafonner, et donc il y a énormément d'institutionnels qui vont maintenant aller à fond dans l'obligataire. Imaginez une compagnie d'assurance qui, pendant 10 ans, n'a pas pu faire d'obligataire parce que les taux étaient à zéro. Ils vont se lâcher. Hein, et donc,
on est d'accord.
Et ils vont dire à l'immobilier sois patient. Hein,
voilà.
Tu as été notre chouchou pendant 10 ans. Maintenant, tu vas un peu attendre et puis à un moment donné, tu reviendras. L'immobilier a une caractéristique que l'obligataire n'a pas, c'est les durations sont très longues. Donc ça, c'est important pour les institutionnels tels que les compagnies d'assurance. Donc il y aura toujours une place pour l'immobilier, simplement pas selon les mêmes volumes qu'on a eu les 10 dernières années. Tous les voyants allaient dans la même direction.
Hein. C'est vrai. Hein.
Donc maintenant, la décrue sera lente, très lente.
On va voir donc ce que donne la saison 2. Voilà.
Oui,
saison 2, écoutez.
On peut nommer l'émission avec François Trost. Saison 2 sur Netflix.
Il est temps de renouveler votre abonnement à Netflix.
Voilà, ça sera passionnant.
Ça sera toujours passionnant. Merci François Trost.
Merci à vous deux.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Voilà, le CEO de Pimco Real Estate, justement, aujourd'hui, avec un terrain de jeu. Parce que l'avantage, c'est que vous, votre terrain de jeu, c'est la planète. Hein. Vous avez des actifs partout.
Absolument.
Voilà.
Oui.
Voilà,
ne dites pas que je prends l'avion parce que je vais me faire taper dessus.
Voilà. Et puis, que des très très belles choses en ce qui vous concerne dans les semaines et les mois à venir. Voilà, un clin d'œil à des jeunes qui nous écoutent, s'ils sont à Londres par exemple ou ailleurs. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On se revoit très vite, hein, François, bien évidemment, sur les ondes de Radio Immo. Cette émission est à récupérer en podcast. Il est exactement 15h30. Et avec notre ami Gagouard, on va suivre cette première journée. Je vous le disais tout à l'heure, ça va être de plus en plus intense.
Tout à fait.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.